Jean-Pierre Cabestan, bonjour.
Bonjour.
Qui était Deng Xiaoping? Comment qualifier l'homme et le dirigeant politique?
Moi, je pense que Deng Xiaoping reste dans l'histoire de la Chine un despote éclairé, un homme qui a évolué, qui a été révolutionnaire, qui a été maoïste, qui a été anti-maoïste, qui a été modernisateur, mais qui a toujours été antidémocrate. Ce qu'on évoque le plus souvent de Deng Xiaoping, c'est la fin de sa vie, c'est-à-dire quand il revient au pouvoir en 78, à 74 ans. Il a une carrière beaucoup plus longue, notamment dans les années 50, jusqu'à la révolution culturelle. Il est très proche de Mao. D'une certaine manière, il évite d'être complètement écarté du pouvoir, faire l'objet d'une exclusion du parti pendant la révolution culturelle. Ça, c'est un point important, une grande différence avec Liu Shaoqi, le grand rival de Mao.
Vous le soulignez dans votre livre, Jean-Pierre Cabestan, la politique de décentralisation lancée par Deng Xiaoping dans les années 1980 a engendré une corruption systémique à tous les échelons du pouvoir en Chine, d'où la justification par Xi Jinping de sa grande lutte anticorruption lancée en 2013. Est-ce la bonne grille de lecture ?
Bah, effectivement, parmi les dérives de l'ouverture, la corruption est un phénomène évident, hein, qui a toujours été jugé par Deng Xiaoping comme un effet secondaire. C'est-à-dire qu'il y avait un certain niveau de corruption à accepter si on voulait que la Chine se développe. De même qu'il y avait un certain niveau d'inégalité sociale à accepter, avec le fameux slogan « certains vont s'enrichir plus vite que les autres », si on veut se développer. Aucun pays s'est développé sans secréter des inégalités sociales. La question, c'est comment les gérer, jusqu'à quel point les accepter. Et d'où le slogan actuel de Xi Jinping, de la prospérité commune, même si dans la réalité, les inégalités n'ont guère été réduites, hein, à l'époque de Xi Jinping. Donc maintenant, le vrai problème, il dépasse Xi Jinping, puisque le système de parti unique, l'opacité du parti, la relation extrêmement étroite entre le parti, le secteur d'État et les entreprises d'État, tout ceci, ça favorise évidemment la corruption. Le fait que l'armée ne soit pas contrôlée par aucune institution extérieure, on le voit chaque jour, c'est une recette pour la corruption. Et ce n'est pas Xi Jinping qui va autoriser un œil extérieur à regarder ce qui se passe dans l'armée populaire de libération. Donc les contrôles se font par le haut et de manière extrêmement opaque, et souvent se superposent avec des luttes de factions, donc ce qui permet à Xi Jinping, évidemment, d'utiliser la corruption pour écarter ses rivaux, mais sans régler le problème structurel, hein, qui est le même qu'à l'époque de Deng Xiaoping, qui est le fait que les gouvernements locaux, l'État, et surtout le parti-État dans son ensemble, a des pouvoirs économiques qu'aucun pays, aucun État ne peut prétendre dans le monde, hein. Donc c'est une organisation politico-économique très particulière et qui, par nature, secrète la corruption.
Et alors, comment répondre à cette question que vous posez dans votre livre avec une pointe d'ironie? Deng Xiaoping est-il un anti-Xi Jinping?
La réponse, elle est forcément un peu compliquée. Je dirais oui et non. Non, parce que c'est un membre du Parti communiste, et c'est un dirigeant qui a toujours voulu donner le pouvoir au parti avant tout, et il a toujours voulu partager le pouvoir. Pour les communistes, le pouvoir politique ne se partage pas. Mais oui, évidemment, parce que Xi Jinping a remis en cause un certain nombre de réformes, y compris une réflexion d'ailleurs sur les structures politiques, hein, qui avaient été lancée par Deng Xiaoping en 86 et développée par les réformistes du parti dans les années qui ont suivi, et ceci jusqu'au drame de Tiananmen. Donc il y avait une ouverture d'esprit bien plus nette que Xi Jinping. Ceux qui cherchent à instrumentaliser la mémoire de Deng, en fait, ils le font dans un but bien précis, hein, de critiquer les mesures qu'a prises Xi Jinping puis son arrivée au pouvoir, concentration du pouvoir, remise en cause de la direction collective, relance du culte de la personnalité, et surtout mise sous tutelle des entreprises privées, de l'économie non socialiste. Et ça, c'est quelque chose qui a des conséquences économiques qu'on sait, et qui, pour cette raison, est contesté par un certain nombre de responsables politiques, mais aussi des économistes chinois. Donc, je pense que parmi les réformes les plus emblématiques et les plus contestées de Xi Jinping, la révision de la constitution chinoise en 2018, et donc l'abolition de la limite à deux mandats de 5 ans de la présidence de la République, a été quand même un tournant important et qui est très, très souvent évoqué. Et alors, ils n'ont pas besoin de parler de Deng Xiaoping, mais on sait très bien que c'est Deng Xiaoping qui avait introduit cette règle.
Jean-Pierre Cabestan, merci beaucoup.
Merci à vous.